Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Vous écoutez Calibre sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Et ce soir, à la technique, c'est Émilie et Noémie. Émilie qui attend vos appels. Et au micro, c'est Lou et Marina.
Calibre, c'est l'émission de Libre Antenne pour parler des questions liées au corps, l'amour, les amours, les sexualités.
Ah, j'aime bien quand c'est au pluriel. Vous pouvez nous appeler, donc, comme le dit une libre antenne, au 04 76 09 09 09 pour nous parler un peu de ces sujets-là, nous poser des questions, témoigner, parler avec nous, quoi.
Ce soir, on va commencer par lire un texte qu'on a reçu d'une auditrice à deux voix. Après, on écoutera Nina Simone, I'm Feel Good. Et puis si jamais cette auditrice veut nous appeler pour en discuter à l'antenne avec nous,
c'est avec plaisir.
C'est avec plaisir.
Alors, ça s'appelle monologue. Quelle est la différence entre une IVG et un curetage? J'ai dû apprendre ça et plein d'autres choses l'année passée.
J'ai été assise sur la chaise gynécologique, jambes écartées avec le machin truc de l'échographie dans mon vagin, voyant le petit fœtus dans mon ventre sur l'écran du scanner, quand la gynéco m'a annoncé qu'elle n'entendait pas le battement du cœur. Ce n'était pas la position la plus digne pour recevoir une telle nouvelle. Ma grossesse était finie? Mais comment ça? Depuis quelques semaines, j'étais contente d'être enceinte et j'avais fait de jolies tripes sur ma vie qui allait changer. Mais je n'avais pas prévu ça. La gynéco m'a conseillé un curetage et j'ai fini le lendemain à l'hôpital, comme ça, sans que je puisse trop y réfléchir. J'étais dépourvue d'informations et un peu sous le choc. Mon corps était dans un état entre la grossesse et rien du tout. Je ne comprenais plus rien. Ça s'est passé un peu mal.
Attendant le fameux curetage, allongé sur un lit, parqué dans un couloir, j'apercevais sans mes lunettes rien du tout. Les lumières de la salle d'opération devant moi. Je me suis tapé tout un accouchement, en direct, retransmis par des... Ah, 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 la gynéco qui commandait, le bébé qui pleurait, le papa et tout et tout. Vous comprenez que la vie est la priorité, m'a dit la docteure pour expliquer son retard. Après plus d'une heure à attendre seule, presque nue, sérum enfoncé dans mon bras, je portais la mort. Et tout le monde me disait, mais c'est quelque chose de très normal, c'est arrivé à une telle et à une telle, ça m'est arrivé à moi. Personne ne le raconte, mais ça nous arrive souvent. J'ai retrouvé partout ce vécu profondément féminin, mais pas très féministe. Je pense que lors de mon IVG, il y a quelques années, j'étais mieux préparée émotionnellement. Et merci au féminisme. Mais pourquoi m'avait-on si peu parlé de la fausse couche, en revanche? Il y a plein de choses à dire. Comment on se sent, comme femme, face à un truc qu'on connaît si peu comparé au tampon, à la pilule, à l'avortement, au point G. Mais aussi, comment on se sent politiquement comme féministe? Comment on te traite à l'hôpital, dans les livres, sur les sites internet? J'ai du mal à me retrouver dans tous ces discours. De l'autre côté, dans mon milieu, j'ai du mal à en parler. Bon, les copines, bien sûr, mais tu raconteras toujours plus tôt que ton chat il est mort quand t'as une que tu as eu une fausse couche, désolé pour le chat. La plupart des personnes, elles ne savent pas comment réagir. Il n'y a aucune solennité prévue. Ce n'est pas un deuil, mais physiquement et émotionnellement, c'est difficile. Et tu dois te taper tout toute seule, apparemment. De toute façon, tu dois dire à personne que t'es enceinte avant le troisième mois. Alors à quoi bon dire que t'étais enceinte et que tu l'as perdue? C'est les règles du silence féminin. Tu peux aussi te laisser médicaliser et commencer à aller d'un hôpital à un autre, d'un médecin à un autre, et suivre le parcours institutionnel de l'infertilité. L'infertilité de femmes d'un certain âge, c'est l'institut que la gynéco m'a conseillé. Très sexy, hein. Ça me remonte le moral. La deuxième fois que j'étais enceinte, quelques mois plus tard, j'ai commencé à saigner chez moi. Je suis allée à l'hôpital, tout le reste, là. C'était une chute hormonale incroyable, comme un ballon qui se dégonfle.
J'ai souffert. En plus, la deuxième fois, on commence à appartenir à un club privilégié. Et après trois, apparemment, tu rentres dans la fausse couche répétitive. Si tu as déjà eu un bébé, peut-être n'est-ce plus la même chose. Trop de nouvelles classifications de notre fécondité-infertilité. Et ils ne savent pas du tout pourquoi ça arrive. À toi de choisir ta paranoïa. Quelle drogue as-tu pris dans ta vie qui a fait ça? Est-ce que c'est une chose de famille? Suis-je trop vieille? Suis-je une femme? Et mon utérus va-t-il bien? Finalement, je n'ai eu aucune réponse. Surtout parce que mon copain et moi, on n'est plus ensemble. J'ai l'impression qu'un enfant aurait été un truc collectif entre moi et lui. Faire un bébé. Par contre, les fausses couches, je me les porte toute seule. Comme un échec, un plan inaccompli. Une intervention chirurgicale pour un kyste, un séjour à l'hôpital. Je commence aussi beaucoup à me questionner par rapport à la maternité. Mais ça, c'est un autre truc. Et tu sais, à la fin, une IVG et un curetage, c'est la même chose. Et ça me fascine. Deux mots pour la même opération. La même intervention. Un centre d'IVG, et pourquoi pas de curetage. Deux concepts différents, mais le même acte. On te vide l'utérus. Que tu le choisisses ou qu'il te soit imposé par la médecine. Le curetage appartient au quotidien des services médicaux, alors que l'IVG, il faut encore la défendre. C'est la même chose, mais ça se discute dans des mondes différents.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. I feel river running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Vous écoutez Calibre sur Radio Kaleidoscope 97 FM, l'émission de Libre Antenne sur les questions d'amour, de corps ou de sexualité. Et nous sommes à l'antenne avec au téléphone Julia.
Salut.
Salut Julia.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à Calibre.
Merci, merci.
Alors, qu'est-ce qui t'amène à nous appeler ?
Ben, c'est moi qui ai écrit le texte que vous avez dit tout à l'heure.
Ah, super. Ben, merci beaucoup alors d'appeler. On va pouvoir en discuter ensemble.
Oui. C'est quand même un sujet si intime que c'est un peu difficile, mais j'ai toujours pensé que c'était la mission. Après que c'était si difficile pour moi, je pensais qu'on devait en parler. Donc, j'essayais de faire l'effort.
Eh ben, merci, merci d'avoir eu ce courage. Effectivement, c'est pas si simple de l'idée de parler à la radio de ce sujet, mais je pense que c'est important de partager.
Oui, bien sûr. Ça, c'est, pour moi, ça, c'était la chose la plus, c'est ça qui m'a frappé le plus, en fait. Que quand j'ai commencé à raconter mon vécu, il y avait plein de femmes qui me disaient, bah, moi, ça m'est arrivé aussi, ou moi, ça m'est arrivé, ou je le voyais dans le livre, ou dans l'internet, partout. Et par contre, avant, j'en savais rien, sauf que il fallait pas en dire quelque chose avant le troisième mois.
Oui. C'est l'idée que quand on est enceinte, il faut pas l'annoncer avant le troisième mois. C'est ça que tu dis ?
Oui, c'est ça. Enfin, je me rappelle que, en fait, j'avais demandé un peu de conseils à ma sœur, par exemple. J'avais dit, est-ce que je commence à le dire ? Parce que c'est quand même une nouvelle qui te surprend, que tu as envie de raconter et tout ça. Et elle m'avait dit, bah, raconte à celle ou à ceux que tu voudrais après en parler si quelque chose t'arrive. Et en fait, quand ça m'est arrivé de faire la fausse couche, c'était encore plus important, je crois, de parler avec les autres, de pouvoir en parler. Et là, c'était vraiment bête si j'avais pas annoncé que j'étais enceinte, du coup, commencer par dire, bah regarde, en fait, je t'avais pas raconté, j'étais enceinte, et maintenant je l'ai perdue. Ouais.
Oui, que c'était plus dur de pas pouvoir parler de ça.
Oh oui, carrément, carrément, ouais. Oui, surtout, en plus, si tu l'avais pas annoncé avant, ça, je veux pas dire à ton employeur ou des choses comme ça, mais même à ton cercle de copines ou des amis. Si t'avais rien dit auparavant, c'était encore plus difficile d'annoncer pourquoi tu étais mal après.
Et parce que du coup, ce que tu écris dans ton texte, c'est que toi, tu l'as vécu comme si c'était très tabou de faire une fausse couche.
Bah, très tabou surtout. Moi, je connais personne qui m'avait dit auparavant. J'ai fait une fausse couche, mais aussi. Aussi, je sais pas, par rapport à, je sais pas, l'association dans laquelle je fais du bénévolat ou je sais pas, mon endroit de travail, je sentais pas que je pouvais en parler, non, pas du tout. Je sais pas, n'importe quel autre séjour à l'hôpital aurait été on aurait pu discuter de ça, mais pas de ça, pas d'une fausse couche. Parce que du coup, tu essayes et les gens ne savent vraiment pas quoi dire.
Est-ce que tu as essayé t'en as parlé avec eux sur ces endroits-là ?
Mais j'ai essayé quelques fois et c'était si coincé, je trouvais, parce que les gens ne savent pas, ah mais tu voulais la voir ou tu... Ah bon, que après j'ai laissé tomber.
Dans ce que tu dis, tu as l'impression que les gens sous-entendaient que quelque part c'est que tu le voulais pas vraiment ?
Je sais pas, ils savaient pas exactement quoi dire.
Oui, parce que comme tu le dis si bien dans ton texte, est-ce que c'est un deuil, est-ce que c'est un accident, qu'est-ce que c'est quoi ?
Oui, oui, oui.
Toi, tu l'as vécu comment ? Toi, tu en as vécu deux, c'est ça ? Tu as vécu deux fausses couches.
J'ai vécu deux, ouais. La première était plus dure parce que c'est jour à l'hôpital, parce que ça tout s'est passé très vite, parce que je savais même pas mes possibilités. La gynéco m'a pas du tout expliqué, parce que quand même, il y a des femmes qui choisissent de pas aller à l'hôpital et d'attendre à que ça sorte par soi-même. C'est aussi une possibilité. J'ai entendu maintenant de... j'ai lu deux choses là-dessus, genre tu peux le faire pour toi comme un deuil, et pas le faire comme si tu t'enlevais un kyste, c'est pas, c'est un choix qu'on a. Et là par contre, tu te trouves face à l'institution médicale qui te dit tout de suite à l'hôpital, faut enlever ça, donc carrément très très peu informé, et dans un moment où tu gères pas du tout. Parce qu'en fait, je crois que ton corps est totalement en train de... Je sais pas, je crois que... Ça, c'est comme ça que je l'ai écrit, c'est une chute. Je suppose que c'est un peu comme accoucher d'une façon, parce que ton corps n'est plus enceinte. Et toutes ces choses qui t'arrivent, toutes les hormones que ton corps dégage pendant que tu es enceinte, d'un moment à l'autre, ça c'est plus là. Et donc, ton corps est sous le choc, toi, hein, en plus... Et en plus, tu dois prendre des décisions. Et là, oui, j'avais pas du tout réfléchi à cette possibilité-là. Donc, comme toujours à l'hôpital, si t'as pas réfléchi avant, t'es totalement à leur...
À leur merci.
À leur merci, oui. C'est ça comment je me sentais. La deuxième fois, c'était un peu plus facile parce que du coup, je commençais à saigner. Mais la deuxième fois, c'était plus difficile parce que tu commences à penser, ah non, parce que la première fois, tout le monde t'a dit, ah oui, ça arrive, pas de problème, ça arrive à tout le monde. Et la deuxième fois, là, tu commences à te choisir un peu plus membre d'un club auquel tu voudrais pas appartenir, en fait. Et tu commences à te questionner beaucoup plus sur les raisons et... Parce qu'en fait, je sais pas statistiquement, mais je crois que ça arrive une entre quatre grossesses finissent comme ça. C'est vraiment one in trois. Je sais pas, c'est vraiment un truc...
J'ai pas compris le chiffre que tu as annoncé.
Je crois que un entre quatre grossesses.
Entre mais une et quatre grossesses
non,
sur...
Une sur quatre grossesses.
Une sur quatre grossesses finissent en fausse couche.
Oui, excuse-moi, je suis désolée, je dois être un peu sourde.
Non, pas du tout. Mais je crois que c'est un nombre assez haut.
C'était... Oui, c'est beaucoup quand même, là, une sur quatre.
Oui. Je crois que sur les trois premiers mois.
D'accord.
Et en plus, il y a même de fausses couches qui ne sont même pas recensées comme fausses couches parce que les femmes ne se sont même pas rendues compte qu'ils étaient enceintes. Ils ont perdu... Moi, la deuxième fois que j'ai fait la fausse couche, c'était genre après trois semaines de retard de ma... De mes règles, donc je suppose qu'il y a plein de femmes qui se rendent même pas compte, peut-être ils pensent que c'est seulement une règle qui arrive en retard. Moi c'était seulement parce que j'étais obsédée par ces trucs de devenir enceinte, et donc j'ai tout de suite couru à la pharmacie après une semaine de retard. Mais c'est vraiment très très haut le taux de fausses couches, surtout par rapport à ce qu'on sait de fausses couches.
Oui, ça veut dire que ce qui t'est arrivé, c'est pas du tout rare. Ça veut
non.
dire que effectivement, enfin, mais c'est par rapport à ton ressenti de solitude très forte. Enfin, j'entends comme si que tu as vécu ça de façon très solitaire, enfin, que tu t'es sentie très seule.
Mais totalement, totalement.
Et paradoxalement, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de femmes, on dirait.
Mais à beaucoup. Et plus qu'on est âgé, je sais pas, parce qu'après, personne ne sait pourquoi ça arrive. Et moi, j'avais demandé à la gynéco s'il n'y avait pas quelques preuves qu'on pouvait faire pour savoir les choses les plus, je sais pas, les choses les plus faciles à décider. Et là, ils m'ont dit que c'est tellement institutionnalisé que quand tu commences à faire des tests, tu dois faire toute la batterie. Donc, tu te mets dans un parcours institutionnel. Ils te font pas la gynéco chez laquelle j'étais, elle a pas voulu, je pensais que, je sais pas, regarder si j'ai un utérus ou quelque chose comme ça, non, des choses simples, savoir pouvoir exclure les raisons les plus simples, mais apparemment c'est pas si facile, c'est déjà si institutionnalisé qu'ils te font des tests de chromosomes, de machins, ils regardent le mec aussi. Ça, c'est tout un truc hyper long.
Si tu veux vérifier ta fertilité, quoi.
Ouais.
Alors que toi, tu avais besoin d'être assurée. Je sais pas, quand tu dis, je voulais même vérifier si j'avais un utérus.
Oui, bien sûr, bien sûr. Après, tout le monde, si les médecins te disent, mais ça arrive tellement souvent, ça arrive tellement souvent. Pour eux, ce n'est pas du tout quelque chose de spécial. Mais quand toi, tu veux un enfant ou quand toi, tu es déjà 3 mois enceinte et tu crois que tu es en train déjà de changer un peu ta vie, même seulement mentalement, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, tu as besoin d'assurance.
Tu regrettes de ne pas avoir été assez accompagnée par l'équipe médicale psychologiquement ?
Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais aussi, et c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est que moi, bien sûr, enfin, je croyais être une féministe. Je pense être une féministe. Je pensais que j'avais lu plein de choses. Et par rapport à ça, j'avais rien lu. Alors que je crois que c'est un vécu très très féminin. Ça nous arrive. Et de ce côté-là aussi. Très seule, ça, parce que le personnel médical, c'est pas quelque chose sur laquelle je compte beaucoup. Mais je sais pas. Je pense que, comme je dis dans mon texte, c'est pas sur l'avortement. Quand ça m'est arrivé de devoir faire le choix, j'avais beaucoup plus de repères que quand je me suis confrontée à la fausse couche. Ouais. C'est pour ça que c'est devenu pour moi important d'en parler. Et aussi parce que dans mes recherches sur Internet, ça, j'ai trouvé plein de forums où de femmes discutent de ça, parce que vraiment, t'as besoin de parler, t'as besoin d'entendre des autres témoignages, de rencontrer des autres femmes à qui c'est arrivé. Et je me retrouvais pas, après j'ai retrouvé quelques trucs qui m'ont plu, mais c'était, je sais pas, de femmes avec qui j'avais aucune rapport, je sais pas comment le dire, mais c'était pas dans des forums, je sais pas.
On dirait que tu aurais aimé trouver des textes féministes sur la question de la, des témoignages et des analyses sur cette histoire de fausse couche.
Je sais pas si vous en connaissiez. Ça, moi, c'était vraiment perdu. J'ai pas trouvé. J'ai aucune idée.
Non, je connais pas non plus de textes qui parleraient de ça, de cette approche-là.
Là, comme ça, j'ai pas non plus d'idée. J'ai envie de me dire, ça doit bien exister, mais...
Ça devrait, non ?
Ah, c'est quand même incroyable qu'aucune féministe se soit emparée de ce sujet-là.
Oui, c'est par rapport au taux de grossesse qui finit sous fausse couche, ça me semble vraiment, vraiment incroyable.
Mais parce que toi, qu'est-ce que tu aimerais dire, justement, comme tu dis, en tant que féministe, sur ce truc-là, de pouvoir le prendre en compte comme un événement important dans une vie
Oui, en plus, je sais pas, je trouve que pour nous, surtout maintenant, où la grossesse est tellement un événement qu'on choisit dans notre vie, qui peut-être arrive... très tard, quand on a presque 40 ans, ça devient un truc beaucoup plus beaucoup plus important. Tu le choisis tellement, t'as 35 ans, t'as trouvé une personne avec qui tu veux avoir un enfant, et tout à coup tu te retrouves avec ça. C'est pas, je sais pas, peut-être avant. Ça arrivait beaucoup plus, mais les femmes avaient beaucoup plus d'enfants. Je sais pas comment le dire. Maintenant, ça devient un truc de plus en plus. Devenir enceinte, c'est tellement un choix qu'on croit qu'on fait rationnellement, qu'on peut dire, ah oui, l'année prochaine, je peux me permettre parce que le travail, ou parce que ça me convient à ce moment-là, ou parce que ça, tu crois pouvoir planifier. Une grossesse, alors que je me suis rendu compte que non. Enfin, tu passes la moitié de ta vie à penser je veux pas devenir enceinte, et après tout d'un coup tu peux pas devenir enceinte.
D'accord. Ouais. Parce que toi, personnellement, du coup, tu l'as vécu comme un échec ou comme quelque chose enfin, je sais pas comment tu l'as vécu et comment tu le vis aujourd'hui par rapport à peut-être encore un désir d'enfant ou.
Bah, le truc c'est aussi que pendant mes séjours à l'hôpital, j'ai aussi rencontré bien sûr des autres femmes qui ont eu le même problème et encore beaucoup plus de femmes qui font de l'insémination et qui sont en train de perdre. Je crois que t'as seulement le droit, je sais pas, en France, t'as seulement le droit à être inséminé un nombre de fois. Si tu le perds, les gens commencent à payer des hôpitaux privés en Suisse pour se faire inséminer. Bon, du coup, j'ai retrouvé plein de femmes qui étaient vraiment obsédées par le fait d'avoir des enfants. Ça faisait 5 ans qu'ils faisaient de fausses couches à répétition. Et ça fait vraiment, tu rentres dans un tunnel, c'est une obsession horrible. Et là, vraiment, pour moi-même, j'ai décidé que je voulais pas faire ce chemin-là. Je voulais pas m'obséder, plutôt penser à la possibilité de pas avoir des enfants que commencer à faire un parcours, où ça risquait de devenir une obsession.
Toi, tu avais l'impression que ce serait plus de la souffrance qu'autre chose.
Ah oui, par rapport à ce que j'ai vu, bien sûr, à la fin, la médecine occidentale te donne tellement de possibilités que si tu veux, vraiment, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui arrivent à avoir des enfants. Mais ça devient vraiment obsessif. Déjà quand j'ai souffert toute une année à cause de ça me semblait qu'il y avait partout des femmes enceintes, des femmes avec des enfants, tu vois, le truc de vouloir quelque chose à tout prix. Et je sais pas, maintenant j'ai décidé, c'est peut-être quelque chose qui vient ou qui vient pas, c'est peut-être un événement de la vie que je peux pas contrôler, comme on croit pouvoir contrôler tout ce qui nous arrive. Ça, peut-être, c'est pas comme ça. Je sais pas. Ça, aujourd'hui, je pense plutôt à la possibilité de pas avoir des enfants. Et en plus, je sais pas, il y a une semaine, qu'il y a eu, je sais pas combien d'habitants dans la planète qu'on est. Ils ont 7 milliards, quelque chose comme ça, le dernier bébé qui est né en Philippines. On est déjà assez, quoi. Peut-être faut pas que je fais le mien aussi, je sais pas. Mais
parce que pour toi, envisager de ne peut-être pas avoir d'enfant, c'est quelque chose que tu arrives à envisager de façon un peu sereine, ou c'est quand même quelque chose que tu fais dans le regret ou dans la tristesse, ou comment tu arrives à t'accommoder peut-être avec cette idée-là, puisque tu dis que tu quand même elle commence à prendre de la place, cette idée que tu n'auras pas d'enfant peut-être.
Mais pour moi, je crois, parce que personnellement, c'est aussi une question de modèle, non, de voir des autres femmes qui n'ont pas eu des enfants. Et voir comme eux ils construisent leur vie. Je sais pas comment le dire. C'est l'image d'une femme qui n'a pas eu des enfants. Parfois c'est tellement simpliste, non? Je sais pas, la tante qui n'a jamais eu des enfants et qui garde la grand-mère. Je sais pas si vous voyez.
La vieille fille qui n'a pas accompli sa vie de femme.
Oui, c'est ça, non?
Et heureusement, il y a d'autres modèles, non?
Oui, c'est ça un peu que je cherche. Je suis à la recherche de ces modèles-là. Et je crois que, de toute façon, je crois que ma génération et il y en aura plein de femmes comme ça. Je vois autour de moi, c'est pas du tout tous mes copines qui ont des enfants. Mais c'est vrai que c'est ça peut-être un peu que c'est que je suis à la recherche de voir comment construire une vie peut-être sans avoir vécu ça. De toute façon, pour moi, c'était pas seulement le fait d'avoir des enfants, mais même le fait de faire une grossesse, ça me semblait, waouh, nous on peut, moi je veux vivre ça, non, hein, expérimenter mon corps en train de changer, justement parce qu'on est des femmes et on peut vivre ça. Bon, là je me commence à mêler. Mais bon, c'est peut-être, c'est vrai que, c'est vrai. C'est vraiment clair que c'est pas ça qui fait une femme, non. Mais
oui, je pense que ce n'est pas que ça qui fait une femme, comme tu dis. Non, non, mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait une femme, d'ailleurs.
Oui, mais je ne sais pas, c'est quand même un truc incroyable de voir ton corps peut-être changer autant.
Mais par ailleurs, est-ce que tu penses que toutes tes chances de vivre une grossesse sont foutues, ou tu penses que quand même il y a encore des chances?
Je crois que comme je dis avant, je crois que surtout maintenant je les pense autrement. Maintenant, pour le coup, j'ai pas du tout envie. Ça m'a vraiment. Je suis plutôt dans les questionnements de pas avoir des enfants. Mais peut-être que c'est une réaction. Je sais pas. Peut-être.
Peut-être que dans la vie, c'est pas linéaire. Il y a des moments où on a envie, d'autres moments où on n'a plus envie. Enfin, j'en sais rien. Je pense que dans nos vies, on change, on évolue, on avance, on recule. Enfin bon.
Ça c'est clair, mais aussi et là aussi notre société t'impose l'horloge biologique, non? Je crois que c'est quelque chose qui pend sur toi. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais décidé de tenter une grossesse. J'ai 37 ans. Mais tu sais, ça c'est aussi un truc. Que la société te dit, ou que c'est peut-être comme ça, qu'est-ce que j'en sais. Mais, bientôt ça va pas être possible, c'est maintenant ou jamais. Non?
Oui, surtout si t'es en couple et que t'approches de la, que t'es entre 35 et 40 ans, j'ai l'impression que.
Je disais ça par rapport à ton commentaire sur la linéarité. J'aimerais bien que ça soit comme ça, mais t'as toujours ce truc de si tu décides pas maintenant, ça va jamais arriver.
Après, ce sera trop tard.
Oui. Non, après, je sais que c'est comme ça. Je connais même une femme qui n'a jamais fait d'enfant, et après, à 55 ans, 60 ans, elle a marié un mec qui avait un enfant dont sa femme était morte, et donc du coup maintenant elle se retrouve à 60 ans avec un gamin de 14 ans, donc elle est maman. Tu sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie, c'est vrai.
Oui, et puis des formes de parentalité, peut-être aussi qu'il en existe des différentes, et qu'aussi, alors je sais pas, j'ai l'impression que toi tu as bien identifié deux éléments dans la parentalité. Il y a effectivement le fait de voir des enfants grandir et d'avoir des responsabilités dans cet accompagnement-là, et puis tu as quand même aussi nommé l'envie de vivre une grossesse. Alors effectivement, j'ai l'impression que bon, il y en a un, il y a que toi qui peut vivre une grossesse. Le premier que je disais, le fait de vivre avec des enfants qui grandissent, d'accompagner, ça, c'est des choses qui sont possibles autrement qu'en étant mère biologique.
Ouais.
Alors, je dis pas que c'est facile et fréquent dans notre société, mais en tout cas, peut-être qu'on peut aussi développer d'autres imaginaires et d'autres possibles.
Oui, mais c'est vraiment ça aussi que je disais par rapport au modèle de pas avoir des enfants. Là aussi, il faut un imaginaire aussi pour voir comment construire notre vie, comment ça se passe, non, et des autres modèles.
Sentir qu'on a une vie qu'on accomplit, qui est pleine de choses, qui n'est pas une vie en creux ou en manque, mais une vie pleine d'autres choses.
Si. Ou créer aussi une autre façon de vivre ensemble la vieillesse, que ça soit pas... Ça, je sais pas. Nos parents vieillissent aussi, on prend un rôle nouveau par rapport à eux. Mm-hmm. Et quand t'as pas des enfants...
Ça, c'est quelque chose auquel tu penses?
Je sais pas, je me rappelle qu'une fois, il y avait une femme qui m'avait dit « Bah, tu vas pas avoir des enfants à qui tu... » Je sais pas...
Ils vont pouvoir payer ta retraite.
Non, non, pas si méchant. Mais c'était genre « À qui tu vas donner ton... » Pas tes choses, mais je sais pas, nos souvenirs.
Transmettre. À qui toi, tu transmettrais...
Oui, à qui va te transmettre ton être, non?
Oui, ce que tu as construit toi, quoi.
Oui. Pour ça aussi, ça, je crois que c'est tous des questions d'imaginer autre chose, d'imaginer, de faire. C'est ça qui nous. C'est ça qu'on devra faire, non? Pour moi, c'est au moins moi.
Comment?
Au moins moi, je pense à ces choses-là.
Ouais, mais je pense que c'est normal, enfin, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, ça, je trouve ça assez logique qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on retourne un peu les choses dans tous les sens pour être, pour bon, puis après, c'est aussi les questions existentielles, hein, du sens de sa vie, tout ça. Et j'imagine que dans ces moments-là, tout ça, ça se remue bien aussi, quoi.
Ah oui, mais totalement, ouais.
Ouais.
Ouais. Bon, ça sera un peu des sujets, ça va faire avoir ou pas avoir. Au début, je pensais vraiment... parce qu'il y a une question que je voulais vous poser, en fait, parce que après j'ai lu un peu plus, et c'est pas la seule méthode d'IVG. Il y a aussi l'aspiration, je crois. Et je savais pas trop, je sais pas si vous saviez... Parce qu'au début, moi, j'étais vraiment très, très frappée par le fait qu'en fait, les procédures sont très, très similaires.
Oui.
Mais
c'est la même. Je sais pas, est-ce que tu sais les curetages que tu as eus, par exemple, si c'était avec une curette ou juste par aspiration? Parce qu'il me semble que...
Tu penses que les curetages, ça peut se faire par aspiration? Parce que moi, j'ai pensé que c'était avec la... Comment tu l'appelais?
La curette.
Oui, je pensais que les curetages, c'est toujours avec la curette et l'aspiration, c'était quelque chose d'autre.
Eh ben, j'ai l'impression que maintenant, depuis quelques temps, je sais pas combien de temps, mais les curetages, ils les font comme avec les canules par aspiration, avec la méthode Kerman, ouais, des avortements. Que les deux, c'est vraiment exactement le même geste, en fait.
C'est le même geste.
Ouais.
C'est ça qui m'a frappé. Ça, quand j'étais, parce que quand ils m'ont dit, il faut que tu fasses un curetage à l'hôpital, machin. Et c'est à un moment donné, je crois que devant la salle d'opération, quand la femme m'a expliqué qu'est-ce qu'ils allaient faire, que je me suis rendu compte, mais c'est exactement la même chose que j'ai fait il y a quelques années.
Ouais.
Et là, j'étais vraiment très, 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 très frappée par le fait qu'un IVG, c'est seulement c'est un truc politique, quoi, qu'un soit appelé IVG et l'autre curetage.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'avant, par exemple, les curetages, ils se pratiquaient aussi après des IVG artisanales, par exemple, s'il y avait complications ou quelque chose comme ça. C'est, en général, c'est qu'il restait des petits morceaux du placenta ou des choses comme ça. Et du coup, après, on allait à l'hôpital pour faire un curetage qui, là, se pratiquait à l'époque avec la curette et puis, j'imagine, sans vraiment d'anesthésie, parce que bon, voilà. Et qu'aujourd'hui, ça se pratique et avec anesthésie, j'imagine que c'est ce que tu as eu, et par aspiration, ouais. Mais toi, bon, le personnel médical, ils t'ont pas expliqué avant le curetage ce que ça allait être, par exemple?
C'est quand ils m'ont expliqué que c'était ça que je me suis rendu compte que c'était la même chose qu'une IVG.
Ouais.
Ça 5 minutes avant d'entrer dans la salle d'opération. Enfin, au début, il faut que tu vas à l'hôpital te faire un curetage. Moi, je savais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Enfin, j'imaginais bien que c'était vider mon utérus. Mais ouais. Je savais pas exactement de quoi il s'agissait. Et je crois que curetage, c'est simplement le nom technique.
Bah, j'ai l'impression que ça vient de la technique, mais je pense que même une fois qu'ils ont changé de technique pour l'aspiration, qui est quand même, j'ai l'impression, plus simple et moins irritante pour l'utérus, hein, parce que du coup on racle pas, quoi, ou très peu, Et j'ai l'impression qu'ils, peut-être, ils ont gardé le nom curetage parce que pour pas que ça prenne, enfin, pour pas que ce soit trop lié dans la façon de le dire. Enfin, je sais pas.
Pour moi, c'était seulement cette réalisation dont je parle aussi dans mon texte, parce que maintenant, il y a encore une lutte assez poussée pour qu'il y ait des services des hôpitaux qui font des IVG.
Oui.
Alors qu'en fait, c'est la chose la plus normale. Ça arrive tous les jours dans les hôpitaux. Quand ils disent fermer un centre d'IVG, c'est... En fait, ça appartient au service gynécologique de tous les hôpitaux et tous les médecins font ça tout le temps.
Oui, mais
ce que tu veux dire, c'est que toi, tu t'es retrouvé dans le service des accouchements pour vivre ton curetage. C'est ça que tu décris dans ton texte, que tu t'es retrouvé à côté de femmes qui, elles, accouchaient, alors que parallèlement à ça, ils ferment des centres d'IVG. Oui. Alors que toi, le médecin qui t'a fait ça, bah, du coup, il pourrait le faire à d'autres femmes.
Oui. Non, mais en plus, ça, c'est un truc assez frappant. Parce que moi, j'étais dans la section de gynécologie. Et donc, j'ai fait la salle d'attente. Tout le temps, j'étais avec des femmes enceintes. En plus, je me rappelle des conversations dans la salle d'attente. Genre, il y avait une femme qui était enceinte qui disait « Ah, merde, j'ai pas pu manger, j'ai meurt. » Elle était contente, quoi. Et à un moment donné, elle s'est levée pour aller aux toilettes. Et c'est là où la femme qui est à côté de moi m'a regardée et m'a dit « Moi, je viens faire la même chose que toi. » Et parce qu'on était tous les deux silencieux, on se sentait tous les deux mal. Tout le temps entouré de toutes ces femmes joyeuses. Et ils font tout le temps ça. Même si tu restes à l'hôpital, ils vont te mettre, même dans le service de gynécologie que moi j'étais, ils vont te mettre dans une chambre avec des femmes qui ont accouché. Alors que moi, je me demandais, moi je serais beaucoup plus contente s'ils m'auraient mis dans le centre d'IVG. Comme ça, je voyais des femmes qui voulaient pas, pouvaient pas garder leur enfant, et moi j'étais parmi eux. C'était beaucoup plus, j'aurais été avec des femmes qui ont les mêmes trucs que moi. Et non, par contre, si tu as une fausse couche, ils te mettent dans la section de gynécologie. Et tu le vois, ça, j'ai compris très très vite à remarquer dans la salle d'attente de l'hôpital les femmes qui sont contentes, ils vont à la révision pour voir quel état leur grossesse, et les femmes comme moi, comme des autres qui étaient en train de perdre leur grossesse. Et je me demandais pourquoi je serais tellement bien dans un centre d'IVG.
Ouais. Bah, alors peut-être, bon, moi je crois que j'entends vraiment ce truc qui devait être, j'ai l'impression que ça t'a mis en colère quand même, enfin ça t'a choqué, ça t'a tristé ou ça t'a blessé, mais aussi j'ai l'impression que ça t'a mis en colère, et je le comprends, de te retrouver avec des femmes qui elles vivent qu'elles sont contentes parce qu'elles sont allées au bout de leur grossesse et qu'elles ont eu l'enfant qu'elles désiraient. Et toi qui est à côté d'elle et qui te retrouve dans cette situation que ta grossesse se termine brutalement sans que tu l'aies souhaité. Alors après, peut-être que certaines femmes pourraient aussi dire qu'elles n'ont pas envie de se retrouver en présence de femmes qui, elles, ont choisi de faire cesser leur grossesse.
Ouais.
Toi, tu as l'impression que ça t'aurait mieux été quand même, même si il y a quand même une différence entre ces femmes qui choisissent d'arrêter leur grossesse en pratiquant donc des IVG. Et toi qui n'avais pas choisi.
Oui, mais je sais pas, ça m'a mis en colère parce que quand je fais ces expériences-là, je les fais aussi comme féministe, donc je regarde autour de moi qu'est-ce qui se passe, et je le dis aussi par rapport, parce que bon, mon cas, c'était rien, enfin, j'ai vu des femmes, justement, qui avaient fait de l'insémination artificielle, et donc qui avaient déjà un parcours médical assez poussé, et qui étaient en train de perdre une grossesse qu'ils avaient fait tellement de travail pour l'avoir. Et j'ai vu ça, je n'ai pas vu une seule, il y en avait beaucoup. Et là, c'était vraiment dur. J'avais une femme à côté de moi, c'était la cinquième fois qu'elle faisait une fausse couche. Et avait passé vraiment des années seulement confrontée au fait de vouloir et pas pouvoir. Et c'est pour ça qu'elle m'a repéré si vite, qu'elle m'a dit, toi, tu viens pour la même chose que moi, parce que tu le voyais, qu'il y a des gens qui sont, il y a des femmes qui sont là, et se sentent mal, qui viennent de pleurer, qui, et des autres qui sont là dans toute la gaieté de,
mais oui.
Qui, j'ai pas pu manger, pour faire les analyses de sang, je vois pas les moments.
Mais que même dans ces moments-là, ça, j'ai l'impression que ça se dit pas. Comme tu dis, elle a attendu que la troisième s'en aille pour que ça puisse... pour te le dire, quoi.
Oui, oui, oui.
Que même là, c'était tabou et c'était un peu...
Mais totalement. Et en plus, la femme, quand elle est revenue, la femme qui était enceinte, elle a aussi, oh, je sais pas, ou peut-être quelqu'un a parlé, moi je suis fait des analyses de sang. Et quand je suis retournée, cette femme qui était enceinte se sentait très très mal par rapport à moi, elle m'abordait, elle m'a commencé à dire, regarde que moi aussi j'ai perdu un enfant il y a 2 ans. C'est des trucs assez étranges pour moi, que je suis pas une adepte de section de gynécologie. Je ne vais pas très souvent à l'hôpital, mais c'était des expériences que j'avais envie d'en parler, parce que c'est vraiment un monde en soi, et ça, tu commences à le voir quand ça t'arrive. C'était des trucs que je ne pensais pas...
Bah, je trouve ça en tout cas super que tu nous as envoyé ce texte et puis que tu nous aies appelé pour qu'on puisse justement parler de ce sujet dont, comme tu dis, on parle pas, peut-être pas assez souvent. Et puis ça me donne envie aussi de t'encourager à peut-être continuer ce travail d'écriture et pourquoi pas de trouver un moyen de le rendre public, parce que quand tu dis que justement toi t'as pas trouvé de choses quand t'as cherché un peu autour de toi des supports et tout, et c'est vrai que c'est important, ça me fait penser à Despentes, Virginie Despentes, qui dit dans un de ses livres, elle parle de viol, mais elle dit moi j'ai cherché des livres aussi qui pouvaient m'aider à des supports d'autres personnes qui avaient vécu ça, et j'ai trouvé pour la psychiatrie, j'avais trouvé pour je sais plus de quoi elle parle, mais pour ça, j'avais pas trouvé. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de trouver des livres, de trouver des choses. Et peut-être si tu as envie de continuer ce travail d'écriture sur ce que tu as vécu et de le publier même de façon militante, en forme de brochure, sur Internet, sur justement ces forums dont tu parles aussi, peut-être que toi, tu pourrais participer à ça,
ouais.
À changer un peu cet état de fait de silence.
Oui, non, t'as raison. Enfin, ça, c'était mon premier essai maintenant. Je suis très contente. Mais oui, t'as raison, faut continuer.
Oui, c'est une bonne idée.
En tout cas, merci beaucoup.
Mais merci à toi d'avoir appelé et d'avoir réussi à avoir le courage d'appeler.
Non, ça fait plaisir avec vous et je vais continuer à écouter.
Alors, merci beaucoup, bonne soirée.
Bonne soirée.
Ciao. On s'écoute un petit morceau de musique de... J'arrive pas à lire ton écriture, tiens. T'as qu'à dire, toi, Lou.
De Sia. Breath Me.
Small.
Toujours à l'écoute de Calibre sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Peut-être que vous nous écoutez également en direct sur Internet si vous n'êtes pas grenoblois ou grenobloise. Pour cela, il faut se connecter sur notre site qui est k-libre.poivron.org. Et peut-être aussi que vous nous écoutez en différé. En tout cas, sachez que toutes nos émissions sont mises en téléchargement libre quelques jours après le direct. On les met sur Internet pour pouvoir les écouter quand on n'arrive pas à écouter en direct. Donc toujours sur ce site. Et si vous voulez nous écrire aussi, comme l'a fait Julia, eh bien c'est possible de nous envoyer un mail. Et notre adresse mail, c'est
calibre@poivron.org.
C'est ça, hein. Oui. Je sens que Lou et moi, on n'est pas les plus doués pour Internet. Et
on s'envoie pas des mails, hein, c'est pour ça.
Le numéro de téléphone pour appeler Calibre,
c'est le 04 76 09 09 09.
Et voilà. Et alors nous, d'une certaine manière, on reste presque dans le sujet. Le sujet global de cette question de la maternité, de la grossesse et de ce que ça représente dans la vie des femmes. On a appris qu'il y avait, alors on a vu l'information pour une projection qui a lieu la semaine prochaine à Grenoble. Et autant, on va le dire tout de suite, ça nous questionne beaucoup. Voilà. Oui. Alors c'est pas une annonce publicitaire, c'est plutôt une annonce de doute. Hein, on n'est pas du tout sûr de si on est d'accord avec ce que portent les personnes qui organisent cette soirée. Bon, j'ai qu'à expliquer pourquoi, sinon c'est pas clair ce que je dis. Jeudi prochain, il y a une projection débat. Le titre, c'est « Enceinte mais seule », trois petits points, « Violence imposée », point d'interrogation. C'est la projection d'un film qui s'appelle « Avortement ou accueil de la vie », suivi d'une discussion sur le thème de la violence, des violences faites aux femmes enceintes lorsque le père ou la famille insiste pour obtenir un avortement. C'est une soirée de réflexion. Et quand même, sur l'affiche, il y a quand même marqué un truc, parce que jusque-là, autant vous dire que moi, j'ai quand même mes grandes antennes qui se lèvent de quoi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est anti-avortement? Ou est-ce que c'est libre choix? Et effectivement, à Calibre, nous, on valorise l'importance du choix pour les femmes, pour tout le monde. Et moi, personnellement, je suis particulièrement sensible à cette question et j'ai un peu du mal avec les gens qui sont anti-avortement. Alors, tout de suite, j'ai mes petites antennes qui se lèvent comme ça et puis je me dis, mais alors, et après, il y a, ouvrez les guillemets, on va marcher sur des œufs, pas grave, on a l'habitude. Alors, ce que je lis quand je lis ça, je me dis, bon, quand même, elles disent, non, nous, on est un peu dans un entre-deux, dans une volonté de réflexion, on n'est pas juste anti-avortement, on a envie de...
En tout cas, c'est pas présenté du tout comme ça. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a moi, dans le petit fly que j'ai vu, il y avait dans la charte, il y avait des principes, j'ai l'impression, sur lesquels ils insistaient, c'était le non-jugement.
Oui, puisque c'est l'association Les Cigognes qui organise ça.
C'est ça. Et du coup, ça a l'air un peu partagé. Alors,
parce que cette association, toi, t'as un peu compris.
J'ai un peu compris que c'était un soutien. C'était beaucoup un objectif de soutien des femmes, du coup, qui sont enceintes, dans cette justement, peut-être dans ce choix à faire, ou dans le soutien de peut-être plus dans le soutien de poursuivre une grossesse et d'être accompagnée, ou d'avoir des informations sur les différentes possibilités, l'IVG, l'accouchement sous X, etc. Pas mal sur la paternité aussi, sur les pères qui voudraient reconnaître un enfant dont une femme voudrait pas, etc. Et du coup, ça a l'air assez ambivalent. On n'arrive pas trop à saisir.
Voilà, on n'a pas envie de...
On n'a pas envie, voilà, d'en faire une...
De présumer.
On ne voudrait pas méjuger.
Voilà, c'est du important coup... pour nous. Et en même temps, on ne va pas non plus être des naïves. Hein. Il se trouve qu'actuellement, les groupes anti-avortement sont toujours en quête de puissance en France aussi. Mmh. Et des fois réussissent à passer par des choses, à se cacher un peu derrière des choses qui semblent anodines, et finalement c'est bien des groupes anti-IVG. Donc ça explique aussi notre méfiance. Oui. Nous, on a envie de dire, peut-être que c'est intéressant d'aller voir à cette soirée. Elle elles annoncent que c'est une soirée débat qu'elles ont ouverte à la discussion. Donc ma foi, est-ce qu'elles sont aussi ouvertes à discuter avec des militantes pro-IVG comme moi par exemple, ou est-ce que ou pas, j'en sais rien. Bon, moi je me dis ça vaut le coup d'y aller en sachant que c'est quand même fort probable que les anti-IVG se sentent aussi très invités dans ce genre de soirée.
C'est ça. En tout cas, ça a le mérite d'apporter ça encore une fois à la lumière et d'en discuter. C'est toujours intéressant de discuter du choix de l'avortement, etc.
Oui, mais en sachant... Pour moi, c'est possible enfin, je veux dire, je tiens toujours à dire, effectivement, le libre choix, ça veut dire aussi de valoriser et de favoriser le choix des femmes qui souhaitent poursuivre leur grossesse jusqu'à leur terme, avoir des enfants, devenir mère, etc. Mais par contre, si ça, c'est mis en avant et qu'on va culpabiliser les femmes qui, elles, ne souhaitent pas... vivre cette grossesse-là, ou ne souhaite en vivre aucune, peu importe, aussi les vies, comme on disait tout à l'heure,
oui.
sont pas forcément linéaires. Bon, c'est un peu plus problématique. Alors, on a quand même qu'à dire où elle est, cette soirée. Donc, c'est jeudi prochain, le 24 novembre, à 20h, à la MJC Parmentier. Bon, aussi, un des trucs qui me met la puce à l'oreille, c'est que ce film « Avortement ou accueil de la vie », alors, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu la bande-annonce. J'ai aussi vu que parmi les intervenants, il y a Martin Vinclair, il y a une nana qui est gynécologue obstétricienne, qui pratique des IVG dans je ne sais plus quel hôpital. Bon, alors ça ne semble pas un film anti-avortement. Enfin, Martin Vinclair, par exemple, c'est quelqu'un qui est tout à fait clair sur cette question-là. C'est un médecin... Alors bon, voilà, à voir comment le film est fait, évidemment, après c'est toujours un film, ça peut tourner les choses de plein de façons, donc il faut voir ce qu'il dit, quoi.
C'est ça.
Alors si vous avez envie d'y aller et de nous raconter après, c'est toujours nous, on est toujours ouverte à ça, évidemment. Bon, voilà, allez-y en sachant qu'on ne sait pas trop ce que c'est que ce soir, et quoi, en tout cas.
Hein. Voilà.
Bon, moi, j'ai toujours envie de citer Sophie Godu, qui est gynécologue obstétricienne, et qui dit « L'IVG est une solution, et on ne prévient pas les solutions, on les utilise. » Et alors, il y a certaines personnes qui ne pensent pas ça du tout.
Oui, il y a certaines personnes qui pensent pas ça du tout et qui se réunissent régulièrement devant les centres d'IVG et les hôpitaux afin de entre autres pour des motifs religieux, pour prier pour les enfants, enfin
ce sont des catholiques intégristes, hein.
C'est ça, pour du coup les fœtus avortés, et ces rassemblements sont souvent l'occasion
pour les personnes qui elles soutiennent le Merci. Droit à l'avortement
et le droit au choix, d'aller montrer leur présence et d'aller empêcher un petit peu ou
pardon,
tu me perturbes, elles font des gestes.
Qui nous fait des espèces de dessins bizarres avec ses doigts, on comprend rien du tout.
C'est ça. Et du coup, c'est les gens qui se battent depuis longtemps pour avoir ce droit et pour le maintenir.
Donc il y a rendez-vous.
C'est ça, se donne rendez-vous.
À 14h, devant l'hôpital à la tronche. C'est appelé par notamment le planning familial de Grenoble et par toutes celles et tous ceux qui
militent ou ont milité
pour ce droit à l'avortement qui continue d'être important et malheureusement d'être menacé plus de 30 ans après le passage de la loi qui légalise l'avortement en France. Donc voilà, on avait une autre... Allez, on passe à autre chose, là on change de sujet totalement pour les dernières minutes, nous dépassons un petit peu, mais... Pour un autre événement, rien à voir, dimanche soir, à la BAF, on en a parlé la semaine dernière, mais on vous le rappelle, donc projection dans le cadre des projections transpédéguines dans ce centre social autogéré qui est la BAF, qui est Chemin des Alpins à Grenoble. Il y a une projection du film Tomboy de Céline Sciamma. C'est un super film, je ne saurais pas le raconter sans dire la fin. Ah non, j'ai qu'à pas le raconter. C'est super. C'est dimanche 20 novembre à 19h à la BAF. On se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine. C'était l'équipe de ce soir dans Calibre. C'était Noémie, Émilie, Marina et Lou.
On vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Ciao.
Corps.
Amour. Sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.